Des mots pour le dire, une émission présentée par Edonès Banti avec Michel Théron.
Bonjour à toutes et tous, bienvenue sur le réseau FM+, sur le 91 MHz, sur l'agglomération Montbéliard-Rennes ou bien le 103.1 sur l'agglomération nimoise, www.fmplus.org, si vous êtes au-delà de ces territoires, mais vous serez toujours proche, c'est comme un cerf-volant, il est toujours rattaché à une corde, et cette corde se trouve ancrée ici, en Languedoc-Roussillon, pour des mots pour le dire, méandre de l'amour, Eros et Agapé, avec Michel Théron. Bonjour Michel.
Bonjour Edouane, bonjour à tous.
Toujours en votre compagnie pour ce rendez-vous hebdomadaire, où vous nous emmenez dans ces méandres de l'amour, mais en fait, qui sont pas tant des méandres, mais des courbes, des lignes droites, et puis ensuite des descentes, puis des montées. Il y a des descentes en rappel, et puis des sommets qu'il faut passer du temps et des difficultés à surmonter. Et la semaine dernière, nous avons abordé le désir et la perversion, qui est un des chapitre de votre livre, donc Méandre de l'amour, Eros et Agapé, qui est paru aux éditions Derby. Et pour l'émission d'aujourd'hui, nous aborderons le chapitre Désir et archétype. Alors, je me suis arrêté sur le mot désir, et pour démarrer, quelques petites citations comme ça. La première de Jean Simard, Félix, nous passons notre vie à désirer surtout ce qui nous fuit et qui ne nous paraît désirable que pour cette seule raison. Ensuite, de Sébastien Charbonnier qui dit « Le rapport à la pensée est un rapport amoureux, et les problèmes sont désirés de la même manière qu'on désire une femme, ou qu'on désire aller quelque part. » Et puis, je terminerai par Gilbert Keith Chesterton qui dit « Il y a des désirs qui ne sont pas désirables. » Bonjour Michel.
Oui, bonjour Edouane. Oui, il y a des désirs qui ne sont pas désirables. Il me semble que Paul dit dans la première épître aux Corinthiens, tout est permis, mais tout n'est pas profitable. Hein, c'est bien ça, Edouane.
Tout à fait. Voilà. Tout est permis, mais tout n'est pas utile.
Tout n'est pas utile. Hein, parce qu'à Corinthe, évidemment, c'était une ville où il y avait beaucoup de débauches. Hein. On disait « non licet omnibus adire Corinthium », c'est-à-dire « il n'est pas permis à tous d'aller à Corinthe ». C'était une ville où alors le plaisir était souvent recherché. Hein. Voilà. Donc, Paul, s'adressant aux Corinthiens, leur dit « vous pouvez faire tout ce que vous voulez, mais tout ne vous est pas, alors vous avez dit utile, profitable, gratifiant, épanouissant, etc. » Voilà, hein, pour la phrase de Chesterton, qui est un humoriste anglais. Alors, désir et archétype. Voilà, c'est le sous-chapitre, toujours, de mon livre, dans le chapitre consacré à Eros ou l'amour de désir. Alors, on sait assez que les archétypes sont, selon Jung, de grandes images qui structurent l'inconscient, comme des formes a priori à partir de quoi notre psyché se constitue et se construit. Ces archétypes ne sont pas donnés par l'expérience réelle. Par exemple, un orphelin peut avoir en lui la double image archétypale, ce que Jung appelle l'imago, un mot latin qui veut dire image, hein, la double image archétypale du père et de la mère. Et ces deux images ne proviennent pas, évidemment, de ce que l'enfant a reçu dans la vie, mais sont des éléments constitutifs de son monde intérieur, et ces éléments lui appartiennent tout simplement parce que cet enfant est un être humain. Par exemple, Redouane, imaginons un enfant qui soit battu par ses parents, ou maltraité par ses parents, par exemple par sa mère, hein, comme Poil de Carotte dans le roman connu. Eh bien, même si ses parents sont défectueux, même s'il en voit les imperfections, cet enfant a l'image archétypale du père et de la mère, ses parents imaginaires, ses parents divins en quelque sorte, qui sont chargés de veiller sur lui. Et c'est pour ça qu'il est très difficile de régler ce problème dans la réalité. Lorsqu'un enfant comment dire, est battu par ses parents, est-ce qu'on va le séparer de ses parents, hein? C'est un problème qui concerne les assistantes sociales, les juges, etc. Eh bien, la question est très complexe, parce que l'enfant continue d'aimer quand même ses parents. Alors, il n'aime pas ses parents réels, mais il aime ses parents appartenant à l'idéal. Vous vous souvenez, Redon en avait parlé de cela dans notre émission à propos de l'évangile selon Thomas, hein. Donc, ma véritable mère, hein, m'a engendré, m'a donné la vie, hein. Donc, ça n'a rien à voir avec, par exemple, Folcoche dans Poil de carotte, hein, en quelque sorte, tyrannise son enfant. Donc, il y a deux choses. Il y a le père et la mère réels, et puis le père et la mère archétypaux, qui sont tout à fait des choses différentes, vous voyez. Alors, s'agissant de l'amour qui est pris encore ici au sens d'Eros, hein, Jung a repéré dans l'inconscient masculin une grande image qu'il appelle l'anima. L'anima, c'est un mot latin qui veut dire l'âme. Hein. Cette image, l'homme va vouloir toute sa vie la projeter sur toutes les femmes qu'il rencontrera. J'ai déjà mentionné l'anima à propos de la sidération où nous amène Eros. Voyez une émission précédente consacrée à ce thème de la sidération, vous voyez. Et vous avez une parfaite illustration de cet anima dans le poème de Verlaine, Mon rêve familier. Voici la première strophe, hein. Je fais souvent ce rêve étrange et pénétrant d'une femme inconnue et que j'aime et qui m'aime et qui n'est chaque fois ni tout à fait la même, ni tout à fait une autre, et m'aime et me comprend, vous voyez. Et il est évident que cette image est un relais archétypal de celle de la mère, mais pas la mère réelle, mais la mère idéale, hein. Cette mère idéale qui doit être accueillante et consolatrice, dans le giron de laquelle l'homme va chercher à se blottir. Et rien n'empêche d'ailleurs de prendre l'expression « elle me comprend », non pas au sens abstrait habituel, c'est-à-dire au sens intellectuel, mais au sens propre et au sens littéral, « elle me prend en elle, elle m'en serre entre ses bras », vous voyez, hein. Donc cette image de la mère accueillante et consolatrice constitue, par exemple pour les catholiques, l'image de la Vierge, hein, de Marie en quelque sorte, hein, la bonne mère, comme on dit à Marseille, je crois, Redouane, hein. Donc c'est un besoin humain de consolation. Mais vous savez, il me semble que dans l'évangile, par exemple dans l'évangile de Luc, Jésus dit à mes enfants, que n'ai-je pu vous protéger comme une poule avec ses ailes, vous voyez. Donc c'est le papa poule en quelque sorte, vous voyez, il me semble que c'est ça, hein. Et alors, dans cette optique, on pourrait dire que l'homme chercherait la femme idéale, la femme archétypale, dans chaque femme qu'il rencontre, et pour cette raison, l'homme serait, selon Jacques Lacan, le psychanalyste freudien connu, condamné à ce qu'il appelle la perversion. La perversion consiste à confronter une image et un être réel, au bénéfice évidemment toujours de l'image, et non pas de l'être réel. Et pour la femme, le cas serait différent. Toujours selon Jacques Lacan, la femme serait, elle, vouée à la psychose, alors bien entendu pas au sens littéral d'une grande pathologie mentale, mais au sens métaphorique, en ce sens que, lorsque la femme aime un homme, elle réunirait en lui tous les hommes possibles, et donc elle serait folle de lui, voyez. Donc voilà, hommes et femmes sont différents. L'homme cherche la femme idéale dans toutes les femmes, et la femme, quand elle aime un homme, réunit tous les hommes dans l'être qu'elle aime. Alors je ne sais pas ce que ça vaut. Je sais qu'il est dangereux d'essentialiser le masculin et le féminin, hein, surtout aujourd'hui, mais bon, laissons cela comme hypothèse de travail. Alors, l'anima, c'est une image, et en tant que telle, l'anima n'implique pas l'affrontement du temps et de la vie réelle. Alors, vous voyez, là, je vais dire quelque chose de paradoxal, Redouane, hein. Il me semble qu'à l'inverse de ce que l'on dit, l'homme est plus rêveur, et je dirais plus sentimental, entre guillemets, que la femme, hein. Il me semble que la femme cherche non pas à confronter un être et une image, hein, mais à vivre une expérience réelle, à nouer un contact, à engager une vraie histoire. Alors on nous dit que la femme rêve toujours au prince charmant. Peut-être, peut-être c'est vrai. Mais n'oublions pas que ce prince charmant, elle l'attend, elle attend qu'il vienne effectivement, hein, comme dit la chanson, hein, « Un jour mon prince viendra », vous voyez, hein. Alors, on évoquera peut-être le cas de Madame Bovary, rêveuse et sentimentale, pour dire que la femme aussi, justement, appartient à ce monde de rêverie, et ce monde, en quelque sorte, de pervers au sens de Lacan, en ce sens qu'elle rêve d'images et non pas d'être réelle. Mais notez bien que Madame Bovary est un personnage créé par un homme, Gustave Flaubert. Et Flaubert disait lui-même, « Madame Bovary... c'est moi, hein. Au fond, je dirais que la fameuse réserve féminine est plus culturelle que naturelle. En réalité, je ne sais pas ce que vous en pensez, Redouane, il me semble que la femme est plus hardie et moins timide que son partenaire. On pourrait dire que c'est elle qui choisit l'homme qui la choisira. Vous voyez, elle est peut-être au fond plus dans la vie soucieuse de réalité que l'homme. Quand une femme aime un homme, elle est curieuse, me semble-t-il, de tout ce qui le touche. Elle multiplie des occasions de l'approcher ou d'en savoir plus sur lui, directement ou indirectement. Ce qui surprend d'ailleurs souvent celui qui est l'objet de cette préoccupation. Et cela se voit dès l'enfance. Regardez par exemple comment fonctionnent les petites filles, par exemple dans une cour de récréation d'école maternelle ou d'école primaire. Elles cherchent le contact réel, elles recherchent la relation et la parole. Hein. Elles sont plus précoces, effectivement, que les petits garçons. Et quant à l'homme, il sera plus lointain, plus inhibé, malgré ce qu'on croit, et aussi plus taciturne. Et dans la vie affective, l'homme, me semble-t-il toujours, hein, fonctionne de façon plus abstraite. Eux aussi dans sa vie intellectuelle. Par exemple, l'homme ne lit pas un texte avec un coefficient de personnalisation égal à celui de la femme. Ce qui lui importe, c'est simplement ce qui a été écrit, si c'est juste ou si c'est faux, et non pas la personnalité de qui l'a écrit. Lorsque j'étais professeur, j'avais été étonné par la réaction d'une collègue au lycée Joffre, hein, qui me disait « Je vous ai lu, j'ai lu votre livre, et je vous ai bien reconnu derrière ce que vous avez écrit. » Alors j'ai ouvert des grands yeux, et ça m'a considérablement étonné, parce que personnellement, quand je lis un livre, je ne cherche pas à voir l'auteur, ce qu'il y a derrière. Je regarde si ce que dit le livre est juste ou faux, s'il me parle ou pas, s'il y a résonance avec moi ou pas. Tandis que une femme, semble-t-il, voit les choses plus concrètement. Je ne sais pas ce que vous en pensez.
Parce que c'est une manière de projeter. C'est comme par exemple les acteurs jouent un rôle. C'est une manière parfois de dissocier. Et la projection qu'on peut avoir sur tel ou tel artiste ou tel chanteur, je pense que ça doit être la même chose. C'est-à-dire, en fait, il faut dissocier entre la personnalité et puis celui qui écrit ou celui qui chante ou celui qui joue. On est dans un rôle et non pas dans la persona.
Absolument, absolument. La persona, c'est le masque social que nous portons sur notre figure. Mais vous qui avez, par exemple, Edouard, des filles et des garçons, vous avez peut-être remarqué que une fille est plus concrète dans le rapport avec l'autre que le garçon, hein, qui lui souvent est plus empoté, timide et gauche, etc. Hein. Il me semble que l'idée selon laquelle l'homme est actif est une idée
problématique. On peut dire que le caractère homme-femme est façonné aussi par la société à laquelle nous appartenons, puisque dans la société, on nous oblige à prendre une place, et puis selon si on est de sexe masculin ou de sexe féminin, il va falloir plus ou moins se battre pour trouver sa place. Et c'est pour ça peut-être que les filles sont plus studieuses, parce qu'il faut qu'elles se battent pour trouver leur place dans la société, que les garçons, qui c'est quelque chose d'acquis. Et du coup, c'est vrai que c'est comme toutes les minorités, c'est-à-dire toutes les minorités existantes doivent se battre pour exister, pour être reconnues.
Absolument, absolument. Mais il reste quand même que le prince charmant doit venir dans la psyché féminine. Un jour, il viendra, un jour,
mais est-ce que c'est pas une manière... C'est une disons, une prison psychologique. On éduque les enfants pour être ceci, c'est-à-dire à la fille on lui donnera une poupée, au garçon on lui donnera un pistolet.
Oui, ça c'est la querelle du genre qui est très actuelle. Il y a beaucoup effectivement de culturel hein, dans l'édification de la psyché masculine et de la psyché féminine, ça c'est absolument évident. Est-ce que tout
pourtant,
est culturel...
Pourtant l'Angleterre a été dirigée par une princesse qui est devenue reine.
Oui,
et donc
oui,
c'est,
oui.
Elle, c'est...
Oui, bien sûr. Mais je pense que...
Et on ne connaît pas le nom du roi d'ailleurs.
Ah, ouais.
On peut toujours poser la question, c'est-à-dire on connaît très peu les noms des rois. C'est comme on n'a jamais su le prénom de Monsieur Thatcher.
Ah, absolument, absolument, oui. Alors nous allons écouter maintenant la chanson de Ferré qui adapte le poème de Verlaine dont j'ai parlé en commençant, c'est-à-dire « Mon rêve familier ».
Vous êtes toujours à l'écoute du réseau FM+, des mots pour le dire, méandre de l'amour, Eros et Agapé. Donc on est toujours avec Michel Théron au chapitre Désir et archétype. Et puis on vient d'entendre Léo Ferré. C'est toujours avec la même profondeur, hein, des mots très très précis.
Ah oui, il s'agit du poème de Verlaine justement, hein, dont j'ai cité la première strophe tout à l'heure. Alors, en y réfléchissant, je prie les auditeurs de m'excuser parce qu'au début de cette émission, j'ai confondu deux romans, Poil de carotte de Jules Renard et Vipère au poing de Hervé Bazin.
Ouais, il y a des titres qui se télescopent.
Voilà,
comme
voilà
ça.
Exactement. Lorsque j'ai parlé de Folcoche, il s'agit du roman Vipère au poing, hein, et Poil de carotte, mais le thème est le même, hein, il s'agit de la mauvaise mère réelle qui n'empêche pas l'existence, hein, dans la psyché masculine. Et là, je retrouve mon propos. L'existence de la mère idéale, hein, de cette mère archétypale. Alors vous me disiez en micro, Redouane, qu'il y a des cultures où effectivement c'est la femelle ou la femme qui a partie prenante.
Oui, c'est,
partie prenante,
c'est hein. Assez étonnant parce que c'est dans le sud saharien. Hein. Là, il y a des tribus, en fait, c'est les hommes qui se maquillent, qui se font beaux pour parader, et ils sont tous alignés, et les femmes... passe devant, c'est-à-dire c'est pas des mariages d'amour, la femme va choisir son mari. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est avec l'index qu'elle indique, elle passe devant et puis paf, elle fait un signe, c'est Voilà, je t'ai choisi. Et c'est, voilà, c'est un peu ce qu'on disait tout à l'heure. C'est vraiment le contexte social influe. Et là, encore une fois, c'est la femme qui choisit. Qui, non, par rapport à ce que vous disiez en début d'émission.
Oui, absolument. Je disais, c'est la femme qui choisit l'homme qui la choisira. Hein. Et dans la sexualité même, la femme est partie prenante, pourrait-on dire. D'ailleurs, ce que vous dites vaut pour dans le règne animal. Hein. Le mâle fait sa parade, par exemple. Si c'est un oiseau, il déploie ses plumes colorées pour séduire, etc. Et puis la femelle va vers celui qui a les plus belles plumes, par exemple, qui est le plus impressionnant, vous voyez. Bon, donc tout cela apporte de l'eau à mon moulin, hein, au sens où je dis que le féminin, finalement, à l'inverse de ce qu'on croit, n'est pas timide, timoré, toujours entre guillemets, hein, mais il fait souvent le premier pas, en quelque sorte, vous voyez, hein. Alors, cet anima, c'est-à-dire la part féminine de l'homme tirée de l'imago maternel, c'est chez l'homme sa part sentimentale et elle constitue l'anima, le talon d'Achille de l'homme. Alors, à l'inverse, le talon d'Achille, en quelque sorte, de la femme serait ce que Jung appelle son animus, hein, tiré chez elle de l'omniscience supposée du père. L'animus se manifesterait chez la femme par une certaine obstination, une animosité précisément dans la défense des jugements qu'elle émet, par exemple dans le monde intellectuel. Et on pourrait sentir cette face d'animus dans le ton de la voix, qui alors, de façon significative, se perche plus haut que d'habitude. La femme, disait Hegel, dans une phrase que nous avons déjà citée dans une émission précédente, c'est l'éternelle ironie de la communauté. Eh bien, c'est parce que la femme incarne pleinement et sans réserve l'éros subversif, renversant toute loi, tantôt pour un bien et tantôt pour un mal, hein, que, justement, elle est cette ironie. L'homme, au contraire, se rabat d'habitude et plus modestement sur le logos, hein, le savoir raisonnable. Alors, vous avez un chapitre dans Dialectique du moi et de l'inconscient de Carl Gustav Jung, hein, qui s'appelle Anima et Animus. Hein. Donc, la partie faible de l'homme, c'est l'anima. Hein. Comprenez la fable grecque, par exemple. Vous savez, Redouane, que Achille était vulnérable au talon. Hein. Eh bien, pourquoi était-il vulnérable au talon? Parce que c'est par le talon que sa mère l'avait tenu pour le plonger dans le fleuve qui devait le rendre immortel. C'était la seule partie, justement, où il était vulnérable, d'où l'expression « avoir son talon d'Achille ». Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'homme est vulnérable par où il tient à sa mère, à cette grande image maternelle consolatrice, vous voyez. Donc, c'est effectivement sa partie faible. Alors, pour l'animus féminin, hein, la femme serait vulnérable dans ce qu'elle aurait une certaine stéréotypie dans les jugements intellectuels, tiré de l'admiration qu'elle éprouve pour son père. Là, je laisse les auditeurs juger, je ne sais pas ce qu'ils en pensent. Moi, je ne suis, en tant qu'homme, en tout cas, je suis bien sûr que l'anima existe. Hein. Pour ce qui est de l'animus, je ne sais pas, il faudrait changer de sexe. Hein. Donc, on pourrait interroger effectivement les femmes, ou bien, par exemple, Tirésias, qui dans la mythologie grecque avait eu les deux sexes. Hein. Il avait été homme et il avait été femme aussi. Hein. Bon, donc, je ne sais pas ce qu'il a né. Est-ce que l'animus existe vraiment? Mais en tout cas, l'anima, je la ressens très bien en moi. Hein. Et alors, notez que cet anima se trouve même chez les hommes les plus virils, hein, c'est-à-dire extérieurement, machistes éventuellement, etc. Hein. Bon, il y a des hommes que l'on dit des durs, hein, et combien de durs se font tatouer, par exemple, sur le corps, hein, une expression comme « à maman pour la vie », vous voyez, hein, donc... Et on serait même surpris de voir ce que lisent ces durs. Hein. Bon, bien sûr, j'accepte la pornographie. Hein. Eh bien, ce peut être des romans de gare hein, qu'ils lisent, vous voyez. Donc, il ne faut pas confondre l'extérieur et l'intérieur. Un extérieur viril peut recouvrir chez un homme un intérieur qui serait fleur bleue, vous voyez. Et de même, à l'inverse, hein, une femme qui serait extérieurement très féminine, maquillée, sexy, etc., peut être intérieurement très masculine. J'entends par là qu'elle pourrait être autoritaire, intéressée, calculatrice, etc., vous voyez. Ce serait une maîtresse femme. Alors, vous savez ce que c'est qu'une maîtresse femme, Redouane? C'est une femme qu'on ne voudrait avoir ni pour femme, ni pour maîtresse, en quelque sorte, vous voyez. Une homasse, comme on dit, comme on pourrait dire, vous voyez. Hein. Donc, je ne sais pas si vous êtes d'accord, Edouard, mais prenons un homme extrêmement viril, militaire, tout ce que vous voudrez, hein, eh bien, il pourrait être intérieurement très fleur bleue, c'est-à-dire que sa mère, pour elle, serait tout. Hein. Et on dit que le dernier mot des poilus de la Grande Guerre, avant de mourir, c'était « maman hein, », vous voyez. Bon, et alors aussi, vous qui avez bien beaucoup voyagé, Redouane, hein, les cultures les plus machistes dans leurs mœurs sont peut-être les plus sentimentales dans leurs productions artistiques. Voyez par exemple le ciné-loukoum égyptien, hein, ou bien les chansons d'amour dans l'islam, qui idéalisent de façon très kitsch la femme, qui est par ailleurs cruellement opprimée dans la vie. Vous n'avez pas rencontré ça, Redouane, ces disjonctions, hein. Bon, il y a des cultures très violentes vis-à-vis des femmes, hein, mais qui auront dans leur...
On le voit en Inde, par exemple, lorsqu'on regarde Bollywood. Ces faits de Bollywood, effectivement, oui. On a l'impression que les femmes sont libérées, mais pas du tout. La réalité est très, très différente.
Exactement. Donc, j'ai parlé du point faible de l'homme. Hein. Évidemment, si l'anima représente l'archétype de la mère... Alors va surgir aussitôt l'interdit culturel de l'inceste. Et j'ai déjà dit dans une émission précédente que dans l'éducation sentimentale de Flaubert, le héros Frédéric n'ose pas toucher Madame Arnoux, qu'il aime d'un amour passion, d'un amour éros, hein, comme par peur d'un inceste. Hein, c'est exactement ce que dit Flaubert. Et alors de là vient la disjonction habituelle que font beaucoup d'hommes entre les femmes qu'ils aiment de façon idéalisée, d'une part, en tant que sublimation de l'image maternelle, et qu'il ne désire pas, puisque l'inceste est prohibé. Et puis, d'autre part, les femmes qu'il désire et qu'il n'aime pas, vous voyez. Ainsi, dans le roman de Flaubert, c'est l'opposition entre Madame Arnoux et Rosanette. Madame Arnoux est idéalisée et aimée toute la vie de loin, hein, de façon abstraite, et Rosanette, c'est la maîtresse que prend Frédéric pour se consoler de la distance de Madame Arnoux. Alors, je ne sais trop si cette disjonction a vraiment un pendant féminin. Hein. La séparation entre celle qu'on aime et qu'on ne désire pas d'un côté, et celle qu'on désire et qu'on n'aime pas de l'autre. Je n'en sais rien. C'est aux auditeurs, ou plutôt aux auditrices, de nous répondre. Hein. Est-ce qu'il n'y a pas chez la femme, quand même dans le désir, un minimum d'amour? Je ne sais pas. Hein. Bon, mais en tout cas, chez l'homme, je sais bien que cela peut être très séparé, si vous voulez. L'archétype d'un côté empêche le désir physique. Hein. Et à l'inverse, les femmes désirées, elles sont très différentes de la mère, celles-là peuvent être l'objet du plus grand mépris. Alors, pour bien comprendre ce que peut être cet anima et cette image maternelle de la femme consolatrice, nous allons écouter une chanson très connue en son temps de Souchon, d'Alain Souchon, « Allô, maman, bobo ».